Il y a deux mondes, t'ai-je dit précédemment, avec la promesse de t'en reparler. Voilà, nous y sommes. Il se trouve un de ces mondes trop étroits dont tu dois accoucher pour te redonner naissance à l'autre. Maintenant, précisons clairement le processus que tu peux emprunter, étape par étape, afin de faciliter ta libération. Tout d'abord, admettre qu'il semble y avoir deux mondes et deux parts de toi qui y vivent séparément. Deuxièmement, décider si tu veux maintenir cette division ou si tu veux apprendre à en sortir. Troisièmement, tout vendre et me donner tes clés. La quatrième étape consiste à apprendre la loi du pardon. Cinquièmement, accepter d'enjamber un à un les apparents ravins qui te séparent de toi. Sixièmement, reconnaître la part de ton esprit qui semble s'être perdue dans l'oubli. Et finalement, la dernière marche consiste à franchir la porte du 1. Reprenons ces étapes une à une. Dans un premier temps, tu penses qu'il y a deux mondes alors qu'il n'y en a qu'un. Partons de ton expérience et décrivons quand même chacun d'eux pour voir si à long terme tu commenceras à réaliser qu'il n'y en a qu'un. Le premier monde, celui qui est réel, se situe hors de la matière, du temps, de l'espace et de toute division possible. Il repose sur la loi souveraine de l'amour, sur l'accès permanent au pouvoir créateur, sur l'état constant de paix, de joie, d'unité et d'infinie connaissance. Ce monde est un état d'amour situé au-delà de toute frontière, de toute possibilité de séparation ou de définition. En cet état, Dieu engendre le Fils qui engendre le Père, qui engendre le Fils en un mouvement sans fin. Le second monde, imaginaire, engendré par un ego également imaginaire, se retrouve coincé dans la forme, l'espace et le temps, qui sont les ingrédients indispensables à la fabrication du rêve et de la division. Une étouffante prison fictive où tu sembles vivre. Parfois, le plus souvent aux heures d'épreuve, tu entrevois le non-sens et tu t'interroges sur une possible issue. En parallèle, il y a deux composantes à la totalité de qui tu es. La première partie de toi est réelle. C'est l'esprit divin, l'entière part de toi qui n'a subi aucune amputation d'aucune nature. Elle demeure toujours aussi intacte, lumineuse et créatrice. Elle ignore intégralement tout ce qui est en dehors de l'unité. Étant éternelle, elle n'a rien à voir avec ton monde visible et temporel, chimérique, imaginaire et inexistant. Elle est ce que je m'amuse à dénommer l'hymne à la joie. Par contre, la seconde partie est une bribe de toi, microscopique et minuscule, fictive et revêtue d'un corps physique. Dans sa folie, elle s'est permise de se dresser contre elle-même, rêvant de division et de fantaisiste autonomie. De cette poussière de rêve est né ce faux semblant de monde que tu habites et crois réel. De par ce rêve de rupture, tu t'es projeté dans l'incarnation où tu sembles vivre alors que tu déambules dans un rêve d'ego. Rêve que tu as toi-même fait naître, en considérant comme probable une possible motion de dissociation de l'autre part de toi-même. De cette dislocation, tu ne peux accuser personne, même pas l'ego, puisqu'elle est née en raison d'un apparent choix de séparation. Un jour, tu comprendras, et ce jour est à ta porte, que si tu t'éveilles, d'ego, il n'y aura jamais eu. Cependant, comme tu crois dur comme fer à ton monde, poursuivons notre démarche. De cette soi-disant rupture, la multiplicité est apparue sous des formes infinies de milliards et de milliards de particules, de formes multiples et différentes, de simulacres de vie engendrés pour la mort. Une seule intention, secrète et délibérée, celle qui justifie ton erreur pour ne pas te sentir coupable et éviter la punition. Ce n'est pas joyeux de penser que tu as créé toi-même ton ennemi et l'enfer de ton monde. C'est pourquoi, à mesure que tu y avances, tu refuses de voir que tu en es l'auteur. Ce monde t'est devenu si intolérable que pour t'éjecter de la souffrance, tu projettes sur tout ce qui bouge ta propre absurdité. C'est ton paradis terrestre, avec son Adam dont la côte est une femme, son serpent d'ego qui, en échange d'une pomme, t'invente un dieu concepteur de punition. Tu dois te chasser loin de toute paix, de toute joie, de toute béatitude. Châtiment bien mérité qui te fera t'enfanter à la douleur. Alors, sur son ordre, croissez et multipliez-vous. Tu trouves occasion de te disséquer pour te cacher, te justifier, te laver les mains et blâmer en dehors de toi. C'est la faute au tentateur, à l'odeur de la pomme, au mystère dissimulé derrière cet arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu dois bûcher à la sueur de ton front. Quelle incongruité ! Te voilà en cavale dans le monde de la multiplication, de telle sorte que tu favorises la division. Oh, la mathématique abstraite est née, et la souffrance avec elle. Comprends-tu l'absurdité dissimulée sous ce mirage ? Te croyant dissocié de ton frère, tu engendres et tu endures son fardeau. Cette simple réflexion n'est-elle pas assez puissante pour susciter en toi une aspiration à l'unité ? Ah, je t'entends réagir déjà, mais laisse-moi continuer pour te permettre un choix éclairé. Je ne te pressure en rien. C'est ton individualité qui s'effraie d'une perte possible. Parlons maintenant de la seconde étape de notre processus, où tu dois décider si tu veux maintenir la division ou en sortir. Une part de toi, que la psychologie nomme « surmoi » ou « conscience », a tenté de te donner un sens plus juste de qui tu es. Elle t'a permis de percevoir certains des moyens de défense que tu utilisais pour réduire tes tensions et voir plus clair en toi. Tu l'as utilisé pour te mieux situer dans tes rapports avec les autres et avec toi-même et te soulager pour une courte durée. Cette longue démarche t'a donné un bien pâle aperçu du chemin, mais ne t'a que temporairement libéré. En contrepartie, tout comme l'influence de la religion ou l'ouverture à l'ésotérisme, elle a stimulé ta soif de comprendre, de créer le passage vers un précepte plus vaste, plus délivré de l'ignorance. Pourtant, malgré ta bonne volonté, elle n'a jamais corrigé l'essentiel ni étanché la soif qui te brûle depuis l'enfance. Derrière ces efforts, en apparence inutiles, j'ai vu ton attrait pour la vérité. Maintenant, tu es mûr pour comprendre le passage de l'individualité à l'unité. L'individualité, c'est le minuscule qui se rêve majuscule. Elle rampe à l'intérieur d'une prison étroite, sombre, infecte et fétide. C'est un avorton à la croissance ininterrompue qui rampe sous les ordres d'un génie tordu, qui abuse de ses faux pouvoirs, qui se moque de la douleur et méprise la joie. Avec les armes de la peur, de la souffrance, de la culpabilité, de la colère, il préside à la destinée de son esclave. Il le maintient dans l'ignorance et la douleur, le doute et le désespoir, et une hantise maladive de la mort. L'esprit pur, c'est la part de toi non divisée. Elle te rappelle à la mémoire de vérité, au souvenir de qui tu es, et n'a jamais cessé d'être. Si tu engages ta volonté, ton courage et ton intelligence au service de cet esprit pur, si tu acceptes de te laisser épauler par tous ceux-là qui t'ont devancé, se réinscrira en ton souvenir ton titre de fille divine. Sans aucun doute possible, cette action de choisir te mène en droite ligne sur la voie royale du retour où je t'accompagne sans possibilité de marche arrière. En échange, je te demande de tout vendre et de me donner tes clés. Tout vendre ? Oui, tout vendre et me donner les clés. La troisième étape de ce processus de libération.
C'est l'histoire d'un homme qui était pris de panique parce que le roi avait envoyé son émissaire pour lui signifier que la demeure où il habitait devait être démolie à court terme. Il serait convoqué au royaume pour des arrangements. La construction d'un centre d'hébergement, rendu indispensable en raison de l'âge de la population, présidait à cette décision. L'homme à l'esprit étroit, au lieu de s'enquérir de ce qu'il obtiendrait en échange, se mit en colère et proféra toutes sortes d'injures à l'endroit du roi. Il fit signer une pétition outrageante et, sans attendre de convocation, il se rendit auprès du roi pour revendiquer son bien. Le roi le reçut avec noble courtoisie, lui remit un trousseau de clés et lui demanda de bien vouloir traverser dans la maison voisine. Dans peu de temps, il se rendrait totalement disponible. L'homme bouche bée obéit la rage au cœur. Sa tête devint un véritable champ de bataille où l'homme se livrait à lui-même un terrible combat. L'attitude paisible de son hôte le déroutait complètement. À peine eut-il le temps d'admirer les lieux dont il avait les clés que le roi les rejoignit. « Cher monsieur, dit le souverain, appréciez-vous cette maison ou si vous avez d'autres préférences, je pense vous l'offrir en l'échange de la vôtre. De plus, j'ai su par mon serviteur que vous étiez inquiet parce que sans emploi et que vous n'arriviez pas à rembourser vos dettes. Avec la demeure, je me charge de vos dettes et vous offre d'être le jardinier officiel du royaume. Pensez-vous à autre chose qui vous comblerait? J'ai appris également que vous aviez obtenu un bon nombre de signatures en termes de contestation. Nous pouvons les mettre au feu ensemble et j'adresserai une lettre au peuple pour les informer que nous avons réglé nos différends, si cela vous convient bien entendu. » Notre homme éclata en sanglots, lui au service d'un roi qu'il avait dénigré. Pourtant, la légende dit qu'avec le temps, lorsque des invités venaient au royaume, ils confondaient roi et jardinier.
Ce bref récit te fait-il mieux saisir ce que signifie le tout vendre de la troisième étape du processus de libération? Renoncer à ton individualité et tout ce que cela entraîne. Voir de l'autre côté du voile, sortir de ta prison, te délivrer de toutes tes idées préconçues, du regard accusateur ou défenseur que tu poses sur les autres et sur toi-même, t'affranchir de la peur, de la haine, de l'attaque, de la culpabilité, de la souffrance et tout ce que cela occasionne d'angoisse et de conflit, d'isolation et de séparation. Comment pourrais-tu démolir cette vieille carapace, retirer les écailles de tes yeux, donner naissance à ta réalité nouvelle et reconquérir ton titre royal sans le soutien constant de mon aide? Je peux te délivrer parce que je le suis. Tu pourras délivrer tes frères parce que tu le deviens. Et ce n'est que tous ensemble que nous pourrons annuler définitivement le Goliath d'ego. Je connais l'ampleur du consentement exigé. Ce n'est pourtant qu'une minuscule virgule en échange de l'amour royal et libérateur que je t'offre. 3 sous contre des milliards de milliards. Tu veux? Voyons ce qui en est de la 4e étape, qui consiste à apprendre la loi du pardon. Cette loi de premier ordre devra être totalement dépouillée de toutes anciennes interprétations. Tu dois devenir libre de ces faux clichés qui présupposent une nécessaire culpabilité, autant chez toi que chez ton frère, car l'accusation autant que la culpabilité se révèle non seulement à l'opposé du pardon, mais son contraire absolu. Voici une légende pour mieux saisir.
Il fut un temps où les citoyens d'un pays étaient soumis aux lois insupportables et abjectes d'un empereur fou. Son adjoint, tenant le titre de premier serviteur, dictait à ses collègues de travail les règles reflétant les volontés du maître. Ces derniers devaient voir à ce que ces lois soient appliquées rigoureusement auprès du peuple. Ces consignes se multipliaient, doublées de contraintes et de pénalités si nombreuses que le peuple suffoquait sous le fardeau. Un de ces bons matins, un citoyen excédé rassembla ses confrères et amis et leur dit « J'ai fait le compte des amendes imposées, la liste des règles dérisoires qui ne cessent d'augmenter, le degré d'influence nocive que cela exerce sur nos familles, et je me dis que cela a suffisamment duré. J'ai décidé de me rendre auprès de l'empereur lui-même et de l'obliger à nous expliquer les raisons de ses exigences. Qui veut venir avec moi ?» Le plus grand nombre de citoyens refusèrent de s'associer à lui, envahis par la peur. Seul un petit nombre d'hommes et de femmes, d'accord à se joindre, emboîtèrent le pas vers le palais, sans armes et sans hésitation. Bien décidés, ils voulaient désormais voir régner la paix et la joie dans le pays. L'adjoint de l'empereur et ses collègues entendant le groupe venir avec assurance au son de l'hymne à la joie, coururent se cacher dans la forêt. Les courageux s'approchèrent d'abord d'un premier bâtiment qui, selon l'information publiée, devait contenir tous les vêtements et bijoux de l'empereur. Ils défoncèrent la porte et, à leur grande surprise, se retrouvèrent devant une salle immense et totalement vide. Poursuivant sa mission, le groupe gagna d'interminables corridors infects et malpropres. Ils parcoururent toutes les pièces du château sans y trouver la moindre trace d'un empereur. Le mensonge au grand jour venait de s'évanouir comme le fantôme d'un rêve imaginaire. Et la légende dit que le temps est venu, par la voie du pardon, de te libérer des fantômes projetés auxquels tu as cédé ton droit de gérance.
Afin de pouvoir m'assurer que tu saisis bien le mode d'emploi du pardon, il me faut l'assurance que tu as compris d'où origine la perception. J'y reviens car cette compréhension est indispensable à ta libération. Imagine un amphithéâtre où tu prends place au centre des gradins. Devant toi, un écran géant. Derrière toi, un petit local abritant un projecteur qui permet au propriétaire d'envoyer des images sur l'écran, lui qui possède des milliers de films. Le plus étrange, c'est qu'en tant que spectateur, tu es sidéré par les personnages que tu vois sur l'écran. Tu les juges, les évalues, vis une foule d'émotions diverses qui passent de la rage à l'impuissance. Tu les vois tantôt humiliés, se prosterner devant des tortionnaires ou trôner en dictateur qui exerce un contrôle à faire frémir. Mais ce que tu ne sembles pas avoir encore compris, c'est que tu es l'auteur de ce film. Tu es l'esprit qui le projette. Tu es l'acteur autant que le spectateur. Je le redis, dans ton monde, il n'y a que toi en face d'autres toi qui sont toi. Si tu comprends cet essentiel, tu reconnaîtras que c'est toi que tu juges, que tu accuses, que tu loues et consoles. Pardonner, c'est dénouer le mensonge. C'est défaire la pensée d'une faute qui n'existe pas. C'est reconnaître que l'erreur que tu vois n'est qu'un défaut de fabrication dont seul l'ego est responsable. Il n'y a pas de faute, jamais, au grand jamais. Ce n'est pas le monde que tu dois changer, c'est ta compréhension au sujet du monde. C'est cela que je te demandais quand je t'ai proposé de me donner tes yeux. Ni ton frère, ni toi n'êtes coupable de rien, jamais. De faute, il n'y a pas, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais. Ce ne sont que des images embrouillées et pêle-mêle dans un rêve. Par le pardon, tu dissous peu à peu le rêve que tu as si souvent renouvelé. Ainsi, tu appelles un autre niveau d'existence. Imagine que tu vois à la télévision le premier ministre de ton pays qui annonce une hausse de taxes, un criminel dangereux qui vient de s'échapper de prison, un enfant qui vient de naître handicapé, un de tes amis qui vient de gagner aux Olympiques, etc. Es-tu neutre ? Certes pas. Peux-tu t'approcher avec délicatesse et retirer les masques de rôle qui recouvrent le visage de chacun de ces individus et ne voir que le visage du Christ en gestation ? Si oui, tu as compris le pardon. Sinon, tu crois que l'autre, c'est l'autre, alors que c'est toi projeté sur un écran de rêve. Par le pardon, tu avances à grandes enjambées sur la voie de l'éveil, et là, tu commences à saisir que le réel n'existe qu'en dehors du rêve. Avance avec tes frères. Non seulement vous détrônez un empereur inexistant, mais vous devenez ce grand collectif marqué au sceau du roi. Vous avancez au lieu où il n'y a ni temps ni espace, ni toi, ni moi, ni l'autre. La vérité, c'est que tu as le pouvoir de choisir à l'instant même de défaire le mensonge pour que ressurgisse en toi l'éternelle vérité de l'amour. La sagesse dit « Je ne suis rien. » L'amour dit « Je suis tout. » C'est ainsi que tu mets fin à ton pèlerinage dans le rêve. Nous voilà rendus à la cinquième étape du processus de libération. Accepter d'enjamber le ravin. Longue et périlleuse aventure pour un débutant, merveilleuse à ses heures pour celui qui garde le regard fixé sur le point d'arrivée. La route est sinueuse, ses versants sont abrupts, le terrain escarpé et les obstacles rarement où tu les crois. Barrières et barricades ont été dressées machinalement par le marcheur que tu es. De l'inconscience naïve à la conscience immature, à ton insu, tu déambules dans des méandres de temps entrecroisés, brisés et repris, entrecoupés de naissance et de mort. L'un des pièges majeurs est de te croire rendu, ou de penser que tu peux voler comme un oiseau au-dessus des obstacles, appelé par toi, pour t'arracher au sommeil. Il m'arrive de te faire cadeau d'un petit bout d'extase pour te sustenter, surtout aux heures de convalescence, mais ne prends pas pour acquis que je ferai le chemin à ta place. Je sais que tu veux sortir de l'état fœtal et te dresser comme un géant. Pourtant, te croire rendu parce que tu as pressenti le soleil, à la longue, brûlera ton élan. Accepte d'avancer pas à pas, de donner la main au décideur en toi et de lui faire confiance. Non seulement il te montrera les obstacles à franchir, mais il te permettra de décrypter les enseignes trompeuses et subtiles, sournoisement placées là par l'ego, pour te faire rebrousser chemin, pour ralentir ta marche ou te gaver de faux-semblants. Ne pense pas que tu es devenu le sage alors que tu t'attaches encore à tes jouets. Si tu nies l'obstacle, il t'avale. La magie ne règle rien. Être aveugle ou ébloui, c'est du pareil au même. Si le fœtus en gestation quitte la matrice prématurément, où trouve-t-il son avantage? Nulle part ailleurs que dans l'illusion, il a vu le monde avant son frère, en oubliant que ce monde où il s'ancre n'est qu'un lieu d'illusion, incendié de noir soleil. La faculté de connaissance ne se lève pas avant le soleil véritable. Elle est donnée au terme de l'avancée vers les rives vierges de l'autre côté du désert blanc. Elle coïncide avec la connaissance d'amour incréé, sise au cœur de l'esprit divin et progressivement disponible à celui qui accepte de tout perdre. Il n'y a que Dieu qui soit au centre. Et si tu crois t'être arrogé cet espace alors que tu traînes encore ton fardeau corporel, tu risques de te brûler les ailes, tout comme Icare dans la mythologie grecque. Et là, que pourrais-je pour toi, sinon d'accompagner ton retour? Ne crains pas d'affronter les brouillards ou les hautes marées. Ce sont des écoles de premier ordre. Ne nie pas l'épée qui te traverse, ni la pierre qui heurte ton pied. Plutôt, arrête-toi. Comprends le sens de l'épreuve. C'est un moyen parfait pour lessiver ton écran de mensonges, offert gratuitement par l'ego.
Il y avait un homme qui, dans son emballement, avait décidé de se construire un château sur les rives du fleuve. Il prit tout ce qui était à portée de main et exécuta son projet en quelques semaines. Enflammé par sa nouvelle demeure, il décida de partir en voyage et de dépenser ses avoirs au gré des offres de ceux qu'il croisait. Quand il revint chez lui, le vent avait semé sa demeure sur le ventre du fleuve.
Enjamber le ravin, c'est voir au fond de ta nature d'être humain tous ces pièges que tu t'es tendus à toi-même afin de pouvoir me les rendre un à un, consciemment et sans jugement sur ta compréhension jusqu'à présent limitée. Le décideur en toi puisera la force de différencier entre l'appel de l'ego et celui de l'esprit divin. Marche, n'aie pas peur. La peur ne te sert plus à rien, mais n'oublie pas le trait tiré entre la témérité et la sagesse véritable. L'une est éphémère, l'autre durable. À la sixième étape du processus de libération, tu apprends à reconnaître la part de ton esprit qui semble s'être perdue dans l'oubli. Je le redis, ton monde est un monde de brouillard où tu marches aveuglément, comme un enfant perdu au milieu d'une jungle, là où règne la loi du plus fort. Un monde conçu par l'ego en vue d'entretenir en toi la division d'avec les autres. Si tu attaques ton frère, tu te sépares de lui, par ricochet, l'attaque te revient via la culpabilité, alors inconsciemment, tu te morcelles toi-même et t'imposes toutes sortes de sanctions. Comprends-tu comme ce peut être difficile de se retrouver quand on est éclaté en des milliards de particules ? Contaminant une part de ton esprit, le fou d'égo te fait croire en une sorte de fission nucléaire de ton noyau divin, comme s'il pouvait le scinder en une infinité de fragments. Il te fait croire que les autres en face de toi sont des ennemis et que si tu ne te construis pas une identité solide, unique et singulière, tu te feras abuser, exploiter, avaler, exploser par les autres. C'est une loi fondamentale du monde où tu navigues entre des milliers de rives alors qu'en aucun temps tu n'atteins le rivage tant recherché. Alors souviens-toi, je te prie, souviens-toi, d'autres, il n'y a pas. Si tu veux accoster au monde que je te propose, comprends que cette loi de la division est inexistante puisqu'elle est à l'opposé de la loi de l'amour et de l'unité. Un seul corps où le pied collabore avec la main et où l'œil se rallie au cœur pour comprendre bien au-delà de tout ce qui peut être imaginé. Pour te rendre la compréhension plus facile, je te propose une synthèse. Ensuite seulement, avec des images, nous parlerons plus à fond du piège de la projection. Le rêve, ton monde. Voici la part de toi où règne l'ego avec l'esprit faux. Cette part de ton faux « toi » est conçue pour répondre aux critères généraux de ton monde. Elle vit à toute heure sous les influences du comparable. Plus riche, plus célèbre, plus pauvre, plus tout ce que tu veux. Immanquablement, c'est le monde de la dualité absolue où tu es prisonnière. Cette partie de l'esprit accoquinée avec l'ego opère en fonction de la division, de la séparation et de la loi de la projection, car où l'ego habite, réside la division, l'attaque, le retour d'attaque et toutes les formes de jugement. Toutes ces attitudes engendrent la culpabilité, la haine, la peur, une souffrance sans limite et finalement, la mort. Selon ton choix, ce monde de rêve peut être soit une prison, soit une école. Si tu y es présentement, et s'il t'est donné de comprendre ce qui précède, tu décoderas que tu as le pouvoir de t'en sortir en accompagnant ta propre gestation. L'éveil, le monde où je te rejoins. Voici le lieu en toi où règne l'Esprit-Saint, lieu porteur du souvenir qui te rappelle ton origine divine. Il est conçu pour t'éveiller et te permettre de démanteler tous les faux-semblants du monde de rêve et te réaccompagner chez toi dans l'amour et la joie d'où en réalité tu n'es jamais parti. C'est là que tu te relies à tes frères qui s'éveillent. En l'Esprit-Saint se trouve l'antidote correctif qui annule le rêve. Il te permet de soulever tous les masques de rôle que tu pensais réels quand tu regardais tes frères. Alors seulement, tu peux te rendre compte du mensonge et ne voir que le Christ dans tous tes frères, sans exception. Le passage est créé, te délivrant de l'inexistante mort. Là où réside le pardon de fautes artificielles et inexistantes, parce que dans le rêve, naît l'unité avec tous tes frères qui ne sont que des particules du grand un. Là règne la joie, la paix, l'amour et l'infinie connaissance.
Un jour, il y avait un homme qui habitait seul dans une sorte de château hanté. À son insu, notre gaillard était muni d'un cerveau robotisé. En sa partie de gauche, s'y logeait dissimulée une minuscule manette magique. Cette pièce de commande automatique déposait, à tour de rôle, d'imperceptibles disques compacts sur une mini-table réceptrice nichée dans l'hémisphère voisin. Chacun de ces disques s'harmonisait avec une précision surprenante aux pensées qui habitaient le cerveau de notre ami. En même temps, les yeux de ce dernier projetaient une multitude de personnages sur les surfaces de miroirs qui recouvraient tous les murs de sa maison. Le plus souvent, ces personnages agités criaient, hurlaient, frappaient, pleuraient et à d'autres moments, chantaient, dansaient, faisant la parade devant lui. Avant même d'avoir posé le pied au sol, notre sujet se dit un bon matin : «
Il me faut sortir d'ici, sans quoi je vais devenir fou.
Cette projection d'enfer déracine complètement ma force et mon courage. Je sens que si je reste seul, je vais m'effondrer dans la démence. Si quelqu'un m'entend quelque part, je ne sais où, j'appelle à l'aide, au secours, je supplie que la vie m'entende. En écho à ce subtil appel, un invisible souffle effleura son esprit. Et s'il y avait un autre chemin? Un autre chemin, voilà, je le sens, il y a un autre chemin. Notre homme venait de déceler la bienveillance de ce souffle devenu disponible en raison de son appel. Il y consentit ipso facto. Sans crier gare, il reconnut un son redevenu familier, son d'une douceur à tirer les larmes. Il se leva prestement et pour la première fois depuis si longtemps, il se souvint qu'il y avait une porte de sortie. Il l'ouvrit toute grande et dut lever son bras devant ses yeux pour s'habiliter à supporter la lumière. Là, tout près, l'enfant au flutio, assis sur un tronc d'arbre, déversait sa joie à grands flots. « Viens, mon ami, approche! Depuis longtemps, j'ai pressenti ton appel. Je te suis toujours disponible, mais je ne force jamais l'entrée. Merci d'être là. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais dis-moi, petit môme, comment ai-je pu oublier le vent, la lumière, l'air et le soleil? Que sont devenus ceux que j'ai tant aimés? Où se sont dissimulés les sons qui me portaient au-delà de moi-même? Que s'est-il donc passé? Où suis-je? Dis-le-moi, petit berger des alpages. Si tu consens, avant de répondre à tes questions, je te propose que nous retournions dans ta cage. Là, je t'apprendrai comment différencier le dedans du dehors. Alors, tu seras instruit de tout ce que tu cherches et délivré du tourbillon insoutenable fabriqué par l'ignorance de qui tu es. Traînant sa vatte et mis confiance, notre homme suivit l'enfant qui referma derrière lui la porte de la cage. Figé dans ses mémoires, notre homme observa l'enfant qui se dirigea vers l'appareil de télévision. Comme par hasard, le bulletin de nouvelles déversait les histoires du jour. En seulement quelques minutes, notre homme avait oublié qu'il était revenu dans sa cage. Il se mit à maugréer contre ce tueur en série duquel on n'avait pas encore coupé la tête. Et ce mythomane de directeur d'école qui avait inventé de fabuleux mensonges et autorisé des tricheries masquées, et cet homme politique qui imposait sa loi aux pauvres alors qu'il était nourri grassement aux frais de la société, et tralala, et tralala. Discrètement, l'enfant fit taire l'appareil et notre homme se mit à voir le coupeur de tête, le directeur malhonnête et le politicien riche dans ses miroirs. Ces personnages fictifs s'attaquaient à lui, levant le poing ou l'arme à feu en sa direction. Notre homme rugissait, hurlait et frappait contre les miroirs qui lui opposaient à nouveau résistance. L'enfant sortit son flutio et entr'ouvrit la porte. L'homme se calma un moment, puis il éclata en sanglots, conscient qu'il était retombé dans ses schèmes anciens, alors qu'il s'était dit prêt à tout pour se sortir du rêve. « Comprends comment, dit l'enfant, dans l'état de projection, tu accuses ce que tu crois être au dehors, alors que la souffrance, la colère, la haine, la peur, l'injustice que tu vois ne sont que l'impeccable reflet de ce qui est en toi. Rien, strictement rien n'est en dehors de toi. Tout n'est que dans ton esprit. Si, un à un, tu consens à briser tous ces miroirs, non seulement il n'y aura plus jamais de cage, mais tu seras devenu libre. » Et la légende dit qu'à compter de ce jour-là, il n'y eut plus ni homme, ni enfant.
L'enfant t'enseigne que c'est toi, le décideur, Tu veux voir le chêne ? Mets le gland en terre, il grandira à cause de ce qu'il est. Ce n'est pas ton petit moi qui le rendra chêne, c'est son essence irréprochable. Transcende le conflit. Le pouvoir de changer ta vision n'appartient qu'à toi. Affirme, prononce au quotidien un oui définitif, et avec toi, je prendrai le reste en charge. Il faut défaire jusqu'à sa racine cette indécente illusion qui t'emprisonne. Cesse consciemment d'être victime d'un monde inexistant si tu veux t'extraire définitivement du rêve. C'est dans le lieu intérieur de ton esprit divin que tout sera rassemblé, unifié, corrigé et délivré à jamais. Chante avec moi. Prends part à la célébration du son, du souffle et de la lumière. Chante de toute la puissance de ta force retrouvée et de ton esprit libéré. Chante. Décideur, tu redeviens libre à jamais. Seul le souffle de l'Esprit-Saint, parcourant encore le monde, orchestre les retrouvailles en son rythme lumineux. Reviennent ces milliards de rêveurs qui, un bref instant, leurrés par une fumée d'illusion, se sont crus séparés de l'amour, alors qu'ils n'ont jamais quitté le Un divin. Pour le banquet royal, la table est déjà mise. Tu viens ? Finalement, franchir la porte du Un, la septième étape du processus de libération. Pour franchir une porte, il faut d'abord l'avoir trouvée. De toute évidence, cela suppose s'être d'abord ingénié à la chercher. Et qui peut chercher s'il n'est pas habité par un cri perçant de désespoir, doublé d'une espérance si vive que rien ne peut freiner son élan? Cela, tu l'as compris, et c'est la raison de ma présence, parfois si prompte, auprès de toi. Il importe cependant que tu saches que la porte du Un, tu ne peux la franchir seule. Je sais, tu veux faire vite. Tu te précipites sur le chemin comme un athlète spécialisé en course de vitesse, chronomètre à l'appui. Tu t'accroches au temps. N'insiste pas, c'est lui qui cherche sans cesse à te retenir. Arrête un moment. Arrête. De tout ton être, écoute la rivière de ma tendresse qui coule au fond de toi et sache que tout est déjà accompli, même si tu sembles vivre dans ton monde d'espace et de temps. Assimile à fond cette connaissance du déjà accompli. Alors, non seulement tu deviendras maître du silence, mais tu insuffleras en ton frère le son aigu et lumineux de l'audacieux paradigme du Un.
La princesse du désert blanc. Ses cheveux courts sous la vague du vent, pareils aux blondes migrations solaires. Son pas léger lèche le sable blanc, alors qu'en tout sa pensée légifère. Elle connaît du désert ce que les autres en disent. Elle a choisi pourtant de le traverser seule, et de s'en rapporter à sa propre expertise, malgré solitude et probables épreuves. Espace à déchiffrer en ces lieux vides et secs, confins de solitude au silence des heures, d'où s'écoule le chant d'un vieil archet complice, parcourant des mémoires qui nourrissent le cœur. Elle est simple, Amélie, mais n'abdique jamais. Les chemins sinueux l'incitent à progresser. Fidèle, jusqu'au bout, elle ira désormais aux frontières d'elle-même et sans rien négliger. Son âme au grand galop lui trace le chemin, lui indique la voie qui libère le cœur, l'espace à parcourir pour dénouer l'ancien et pour la délivrer de détresse et de deuil. La mort est un mensonge, le duel est son maître. Amélie se sait un. Elle n'a plus rien à craindre. Libre de raisonnement, elle vibre d'intuition. Elle laisse l'océan formuler sa chanson.